Cette émission contient des termes offensants pouvant causer un préjudice psychologique pour faire référence aux communautés noires au Canada. De plus, certains témoignages décrivent des actes de violence physique et verbale difficiles à supporter. Découvrez Bibliothèque et Archives Canada présente « Confidences de porteurs ». Cette mini-série décrit les expériences vécues par des hommes noirs du 20e siècle qui ont travaillé comme porteurs de voitures-lits pour les chemins de fer canadiens national et canadiens pacifique. Les porteurs, leurs femmes et leurs enfants racontent des histoires d'adversité, mais aussi de résilience. Bienvenue à la première saison de « Voix dévoilées », une série qui donne la parole aux communautés sous-représentées et marginalisées grâce à la vaste collection d'histoires orales de Bibliothèque et Archives Canada. Les récits sur les injustices, les conflits, la persévérance et la résolution de problèmes aident à comprendre l'influence du passé sur la vie présente. Ils nous incitent aussi à chercher de nouvelles voies pour un avenir meilleur. Ici Richard Provencher, votre animateur pour la première saison de Voix dévoilées. Je suis ravi de vous présenter les histoires qui sont au cœur de la mini-série Confidences de porteurs.
Interview. Conducted by Stanley G. Grizzell of...
Entrevue avec Ted King, animée par Stanley G. Grizzell, Vancouver. Entrevue avec Clarence Coleman, d'Ottawa. Entrevue avec Cordy, Madame Roy Williams.
En 1986 et 1987, Stanley G. Grizzell a parcouru le Canada et les États-Unis pour interviewer des hommes noirs qui ont travaillé comme porteurs de voitures-lits.
Tu as été embauché par le Canadien Pacifique? Où exactement? Pourquoi as-tu accepté cet emploi?
Ils invitaient aussi leurs épouses et leurs enfants à décrire la vie dans le foyer d'un porteur.
Est-ce que son absence avait un impact sur les personnes du foyer? Quels sont tes souvenirs de ton père en tant que porteur de voiture-lit? Te souviens-tu de certains incidents?
Stanley G. Grizzell a travaillé comme porteur du chemin de fer canadien-pacifique pendant 20 ans. Ce grand militant a aussi travaillé comme fonctionnaire et juge de la citoyenneté. Passionné d'histoire, il n'a pas épargné les efforts pour documenter et préserver l'histoire des Noirs au Canada et ailleurs. Sa collection est aujourd'hui conservée à Bibliothèque et Archives Canada. Les entrevues d'histoire orale menées avec des porteurs et leurs familles seront mises en contexte par des chercheurs noirs, des historiens canadiens et des membres de leur famille ou de leur communauté. Elles expliquent comment les personnes racisées subissent encore les conséquences du passé. Cecil Foster, président du département d'études transnationales à l'Université de Buffalo et auteur de l'essai « They Call Me George, The Untold Story of Black Train Porters and the Birth of Modern Canada » a connu Stanley Grizzell vers la fin de sa vie. Il en garde d'excellents souvenirs.
I often think of Stan as in a lovable way as a pack rat, in that he kept everything.
Je qualifie affectueusement Stan de ramasseux. Il gardait tout, même des boutons ou des bouts de papier. Pour un chercheur, c'est merveilleux de trouver ces objets 20, 30 ou 40 ans plus tard. On se demande comment il a pu avoir l'idée de garder tout ça, car la plupart du monde aurait tout jeté aux poubelles. On trouve aussi à peu près toutes ses lettres, enfin, je suppose, car il en écrivait beaucoup. Je suis sûr que certains sont perdus. Mais quand on pense à toutes les lettres qu'il a écrites, on voit qu'il avait le sens de l'histoire. Ce n'est donc pas étonnant qu'il ait fait des entrevues. Je pense qu'il concevait la citoyenneté comme le passage du témoin d'une génération à une autre. Pour lui, ce qui s'est passé hier devait être connu dans 3, 4 ou 5 générations. Dans ce sens-là, on pourrait dire qu'il est véritablement un homme du chemin de fer. Un trajet en train peut durer 6 ou 7 stations, mais on se souvient toujours des endroits qu'on a traversés. J'ai l'impression que c'est un peu sa façon de penser. C'est comme ça qu'il a légué une très riche collection aux générations futures.
Grizzell est en quelque sorte un gardien du savoir. Il comprend l'importance de faire connaître les expériences des Canadiens noirs en ce qui concerne le respect de leurs droits. Sage Mathieu, professeur agréé d'histoire à l'Université du Minnesota et auteur du livre « North of the Color Line, Migration and Black Resistance in Canada, 1870-1955 », a rencontré Grizel pour la première fois quand elle était étudiante au cycle supérieur.
Look, I remember the day I cold called Stan Grizel as a grad student.
Je me rappelle la fois où j'ai appelé Stan Grizel pour solliciter une entrevue. J'étais aux études supérieures. Je me vois encore assise par terre dans ma petite chambre. Le plancher était couvert de papier. J'étais si heureuse qu'il réponde à mon appel. Il a eu l'amabilité de répondre à mes questions, même s'il ne savait pas qui j'étais. Comme tout le monde, il a commencé par me mettre à l'épreuve. Il m'a demandé si je savais qui il était. J'ai dit oui, je sais tout de vous, probablement même un peu plus que vous ne le voudriez. Alors, il m'a posé des questions pendant une bonne demi-heure. Qu'est-ce que j'ai fait à tel endroit? Qu'est-ce qui s'est passé dans telle ville? Quand tel événement a-t-il eu lieu? J'ai dû répondre comme il faut parce qu'il a accepté de me parler. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais j'ai eu la chance de participer à une entrevue de la CBC avec lui. Il a toujours été aimable avec moi. Je pense qu'il a fini par symboliser la vigueur, la fermeté et le refus de prier qui caractérisent les porteurs de voitures, lui. À cause de tout ce qu'il a fait, lui, originaire de Toronto, de sa carrière après avoir été porteur, de son charme et de son amabilité quand il parlait et de tous les documents qu'il a fini par donner à Bibliothèque et Archives Canada.
Pour elle, Grizel était lui-même une source historique inestimable, au même titre que les archives qu'elle a consultées pour rédiger sa thèse. Son impressionnante collection de documents textuels, ses récits et les histoires qu'il a entendues nous aident à comprendre à quel point la vie pouvait être complexe pour les Canadiens noirs au 20e siècle. Son fils, Stanley Grizel fils, nous explique la place de l'histoire dans la vie de son père. Il décrit également les amitiés qui donnaient à son père la force de persévérer.
Sa maison était derrière la Casa Loma, dans ce bout-là. Il avait une ou deux chambres remplies de classeurs. On lui posait une question et il savait tout de suite dans quel classeur il trouverait la réponse.
En plus de recueillir toutes sortes de documents textuels sur la vie des Noirs au Canada et ailleurs, Grizel a cultivé des amitiés qui l'ont grandement aidé à comprendre son époque. Il accorde une grande importance aux récits qu'il raconte et entend, car il comprend leur valeur pour la génération future.
Il ne laissait jamais tomber ses amis. On peut dire qu'il collectionnait aussi les relations. Il n'était pas du genre à couper les ponts. Les gens comme lui n'ont pas besoin de remplacer une personne par une autre. Oui, mon père collectionnait les relations. Et son magnétophone qu'il portait autour du cou, je l'ai encore. Je dois bien avoir 200 enregistrements, mais je n'ai aucune idée de leur contenu.
Pendant une bonne partie du 20e siècle, les collections comme celle de Stanley Grizel ramassaient de la poussière dans les greniers ou les caves des membres de la communauté noire. Des documents textuels existaient, mais n'étaient pas toujours accessibles. Les témoignages restaient privés eux aussi. On ne les transmettait qu'à des parents ou amis dignes de confiance. Stephen High, professeur d'histoire à l'Université Concordia et auteur du livre « Deindustrializing Montreal, Entangled Histories of Race, Residence and Class », parle de l'importance du don de Grizel à Bibliothèque et Archives Canada.
Il a créé une archive, oui. L'histoire des Noirs est très peu connue. Il faut se demander de qui on trouve les histoires dans les archives. C'est une question politique. Lui, il parcourait le pays, recueillait des sources et parlait au monde. Il y a les entrevues d'histoire orale, mais aussi des preuves documentaires sur les auxiliaires féminines qui auraient sûrement été perdues s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait à ce moment-là.
Dans l'est de Toronto, le nom de Stanley G. Grizzell a été donné à un parc situé en face de la station de métro Main Street et à une ruelle allant vers le sud à partir de l'avenue Doncaster. Ces lieux commémorent le militantisme de Grizzell, qui a contribué à façonner les politiques canadiennes sur les relations de travail, l'immigration et les droits de la personne. Pourtant, bien peu de personnes connaissent son œuvre en tant qu'historien et militant. Stanley Grizzell a écrit sa mémoire dans le livre « My Name's Not George, The Story of the Brotherhood of Sleeping Car Porters in Canada ». Cet ouvrage, fort populaire, malheureusement épuisé, décrit les combats quotidiens de sa jeunesse. Le racisme de tous les jours a fini par faire de lui un militant déterminé.
Je suis né à Toronto en 1918. Mes parents immigraient de la Jamaïque en 1911, mais séparément. Ma mère était une domestique. Le chemin de fer du Grand Tronc embauchait et mon père a trouvé un emploi comme chef cuisinier. J'étais l'aîné de 7 enfants. L'économie allait mal quand j'étais enfant. Pendant la Dépression, on dépendait de l'aide sociale, comme beaucoup de la communauté noire. Le racisme a pris de l'ampleur à ce moment-là. On voyait des affiches réservées aux Blancs dans les appartements alloués, mais aussi dans de nombreux lieux publics. Je me rappelle qu'il y avait 5 ou 6 afroirs canadiens à l'école. Tous les jours, je me faisais traiter de...
Le militantisme de Grizzell est aussi motivé par un acte de violence qu'a subi son père. Cet événement familial continue de marquer les esprits 2 générations plus tard. Voici comment Stanley Grizzell fils décrit l'incident.
Well, I think when he was a young man, his father was a taxi driver.
Quand mon père était jeune, son propre père était chauffeur de taxi. Mon grand-père était chauffeur de taxi à Toronto. Un jour, il était stationné devant le Royal York Hotel et il attendait des passagers. Des chauffeurs blancs sont venus lui entailler la peau de l'oreille à la bouche. Il disait qu'aucun n'allait conduire des taxis dans la ville. Mon père n'a jamais oublié cela.
C'est à cause d'incidents comme celui-là et de son premier emploi en tant que porteur de voiture-lit au chemin de fer canadien-pacifique que Grizzell a milité tout au long de sa vie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté noire de Toronto.
J'avais 22 ans en juin 1940 quand j'ai trouvé mon premier emploi sur le chemin de fer. Mes parents voulaient que je reste à l'école, mais avec 7 enfants, aucune aide sociale ni assurance emploi, ils avaient du mal à nous donner ce qu'ils voulaient. Pourquoi j'ai pris un emploi de porteur voiture-lit? Je n'avais pas d'autre choix et je ne voulais pas mourir de faim. Le contexte était difficile. En raison de leur emploi stable, les porteurs étaient respectés et même parfois admirés au sein de la communauté. Ils formaient en quelque sorte l'aristocratie des communautés noires au Canada. Ils étaient les célibataires les plus recherchés et les parents encourageaient souvent leurs filles à marier un porteur. J'ai suivi une formation d'une semaine avec l'instructeur des porteurs, Cyril Woods. Les instructeurs utilisaient un manuel de 34 pages qui disait bien clairement que toutes nos tâches visaient à assurer la sécurité et le confort des passagers. Comme un porteur a dit, toutes les personnes dans le train sont tes patrons. Beaucoup de porteurs finissaient par trouver ça dur de toujours devoir servir. On nous surnommait les diplomates du chemin de fer. De tous les membres du personnel, on était les plus proches des passagers. On brossait les manteaux et les chapeaux, transportait les bagages, serrait les souliers, faisait les lits. On faisait tout pour eux. Pourtant, un seul commentaire négatif de passagers pouvait mener au congédiement d'un porteur. Après 60 points d'inaptitude en un an, tu étais automatiquement congédié.
Stanley Grizzell n'est pas le seul à avoir subi les tourments du racisme et de la discrimination. On entend des histoires semblables de la part d'Eddie Green, de Raymond Coker, de Leonard Oscar Johnson et de Roy Williams. En voici quelques extraits.
I couldn't get a job. In those times, it was the...
Je ne trouvais rien d'autre. C'était les sales années 30 et à l'époque, c'était toujours difficile pour un noir de trouver un emploi de toute façon.
Well, at the time, there wasn't too much to go to.
À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'options. Après mes études, j'étais qualifié pour devenir chimiste industriel et j'étais aussi musicien. Mais les préjugés étaient si forts que je ne pouvais rien trouver. Le travail de porteur est le seul que j'ai pu trouver. Je faisais des demandes d'emploi, mais on me refusait à cause de ma couleur. En fait, on me traitait de... Je me souviens qu'un jour, je marchais sur la rue King, entre les rues Jane et Bloor, à la recherche d'un emploi de machiniste. J'avais déjà quelques années d'expérience dans le métier, mais on m'a dit d'aller cirer des chaussures. Et oui, c'était il y a 50 ou 60 ans. Alors je me suis dit, OK, je vais aller cirer des chaussures. Et je suis allé au chemin de fer canadien-pacifique. J'ai commencé à travailler sur le chemin de fer en 1936. Il n'y avait pas d'emploi à l'époque, c'était vraiment déprimant. Alors j'ai pensé au chemin de fer.
Travailler comme porteur était épuisant sur le plan physique et mental. Les porteurs de voitures-lits accueillent les passagers à bord et répondent à leurs moindres besoins jusqu'à leur arrivée. Ils doivent être disponibles 24 heures sur 24. Ils peuvent dormir quelques heures par nuit, mais uniquement s'ils parviennent à accomplir toutes leurs tâches et si un collègue peut les remplacer. Une exploitation aussi abusive rappelle les traitements infligés aux esclaves du sud des États-Unis entre la fin de la guerre de 1812 et le début de la guerre de sécession en 1861. Melinda Chateauvert, auteure du mémorable livre « Marching Together, Women of the Brotherhood of Sleeping Car Porters », décrit l'histoire des porteurs aux États-Unis et les liens que nous pouvons faire avec l'époque industrielle. Nous verrons bientôt comment les mêmes tendances se sont produites au Canada.
The Pullman Palace Car Company.
La Pullman Palace Car Company s'inscrivait dans ce rêve typique du 19e siècle, rendre la vie meilleure, surtout pour les riches. C'était ça l'objectif quand George Pullman a transformé les voitures de train en palais roulant. Avant ça, même si les locomotives à vapeur existaient depuis un certain temps et qu'il y avait toutes sortes de moyens de transport, voyager d'une ville à l'autre était assez dispendieux. Les voyages étaient plutôt pénibles. Comme je disais, George Pullman voulait construire un palais roulant, avec des places pour dormir et pour manger et des voitures bar. Il y avait des belles installations pour les femmes et les hommes et ils offraient des services. C'était un véritable hôtel mobile. Les passagers aimaient et exigeaient des commodités comme celle-là. George Pullman a lancé sa première voiture lors des funérailles du président Abraham Lincoln. Il a ainsi profité de la publicité nationale qui venait avec cet événement. Il a embauché des hommes noirs, dont la plupart venaient d'être émancipés, pour travailler à bord de ses voitures et offrir les services attendus dans un wagon de première classe. On pourrait dire que c'est là que viennent les porteurs noirs. Les porteurs de voitures lits noirs tirent leur origine des funérailles de Lincoln et des idées de Pullman. Pour lui, les anciens esclaves qui avaient travaillé comme domestiques ou majordomes ou qui avaient fait un autre travail du genre étaient la main-d'œuvre idéale. Pullman a reproduit les classifications des emplois en fonction de la race qui avaient été institutionnalisées avant la guerre, jusqu'à l'ère industrielle moderne. C'est pour ça que, dans la compagnie de Pullman, les Noirs faisaient les tâches pénibles ou travaillaient comme serviteurs.
Indeed, he doesn't even have a name. He's just ubiquitously called George.
En effet, ces hommes n'ont même pas de nom. Ils se font tous appeler George, du nom du propriétaire de la Pullman Company. L'idée, c'était d'éviter que les passagers blancs aient à retenir les noms. Alors, on va tous vous donner le nom du propriétaire de la compagnie, à qui vous appartenez pratiquement en tant qu'employé. Comme dans toute relation, la compagnie avait une idée de ce qu'elle voulait faire avec sa main-d'œuvre noire. Mais les travailleurs avaient eux aussi leur intention. Et ce n'était pas de participer volontairement à leur exploitation.
La docteure en histoire, Sage Mathieu, décrivait les comportements indignes que devaient supporter les porteurs au quotidien. Stanley Grizzell fils donne plus de détails.
C'était une sorte de servitude. Ça valait mieux que de travailler sur une plantation ou récolter du coton. Mais ça devait être démoralisant de se faire traiter de manière aussi méprisante, de cirer les chaussures et de se faire sonner à 3 heures du matin pour se faire dire « Garçon, un café ».
Stanley Grizzell a recueilli des histoires semblables dans ses entrevues avec Helen Wachter, fille et épouse d'un porteur, Leonard Oscar Johnson, et de Elaine Russell Padmore, elle aussi fille d'un porteur.
There was nothing else for the men to do except railroad.
Les hommes n'avaient pas d'autre option que le chemin de fer et les conditions de travail étaient abominables. Ils travaillaient à n'importe quelle heure, beau temps, mauvais temps. Ils faisaient de longs voyages. C'était difficile de revenir à la maison puis de repartir. Ils n'aimaient pas ça. Et ils n'aimaient pas se faire traiter comme des serviteurs. Je connais mon père. Il n'aimait pas cirer des chaussures et se faire dire « ici George » ou « ici garçon ». Il n'aimait pas ça du tout. Mon père n'était vraiment pas fait pour le chemin de fer.
Je n'aimais pas être enfermé pendant des jours. Au moment du départ, on pouvait en avoir pour un mois de travail loin de chez soi. Ça donnait quelque chose comme 632 heures, 21 heures par jour, enfermés avec des étrangers en permanence.
C'est ce qu'ils avaient à faire. Apparemment, à cette époque-là, la moindre erreur pouvait mener au congédiement d'un porteur. Un passager payant qui ne vous aimait pas particulièrement pouvait vous dénoncer.
Stanley Grizzell a temporairement quitté son poste de porteur lorsqu'il a été conscrit dans les forces canadiennes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme d'autres moments névralgiques de son existence, le service militaire a confirmé sa vision du monde et donné plus de vigueur à son militantisme.
En 1942, après l'adoption de la loi sur la conscription par le gouvernement canadien, j'ai reçu une lettre m'obligeant à faire mon service militaire dans les forces de Sa Majesté. Je comprenais la cause de la guerre, mais ça me dérangeait qu'ils aillent se battre en Europe pour une démocratie à laquelle je n'avais pas droit ici au Canada. En plus, j'étais et je suis resté un pacifiste. De Newmarket, j'ai été envoyé à Camp Borden, en Ontario, puis à Terrace, en Colombie-Britannique. J'ai reçu une permission de 2 semaines pour épouser Kay à Hamilton, en Ontario, en septembre 1942. On a passé 3 ou 4 mois à Valcartier, puis on est allé à Halifax pour se préparer à embarquer. Le changement du navire a duré 7 jours. Je suis embarqué la première journée et c'est ce jour-là que ma première fille, Patricia, est née. On m'a refusé une permission pour aller la voir, alors j'ai vu ma fille pour la première fois quand elle avait 3 ans. En Angleterre, des officiers voulaient une ordonnance, c'est-à-dire un soldat pour serrer le bouton et leurs chaussures. On dirait que pour eux, les Afro-Canadiens étaient nécessairement des serviteurs. Alors, ils m'ont demandé d'être leur ordonnance. Vu que ça ne faisait pas partie de mon service régimentaire, j'ai refusé. Ils ont demandé à un camarade de la Barbade qui a refusé. Ils ont aussi demandé à un juif, un de mes amis, mais il a refusé aussi. On a tous refusé. On recevait une tâche chaque semaine. Il y en avait environ 6 qu'on faisait à tour de rôle, comme nettoyer les terrains, travailler à la cuisine ou faire les lits à l'hôpital. On n'avait pas de toilettes, juste des seaux qu'on appelait bac à miel. il fallait qu'on les vide. Et comme j'ai refusé d'être à l'ordonnance, les officiers m'ont donné les bacs à miel 5 semaines de suite. La 5e semaine, j'ai fait la grève. Les bombes et les avions sans pilote s'écrasaient partout autour de nous dans le sud de l'Angleterre. Je me suis dit que j'allais mourir de toute façon, alors pourquoi ne pas faire la grève? Mon sergent est devenu hystérique. J'ai demandé à parler à mon commandant. Je lui ai demandé d'être libéré de l'armée canadienne parce qu'elle se battait pour des principes qui ne s'appliquaient pas à moi. Il a répondu que mon problème était important, mais qu'il se préparait à traverser la Manche et qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper. Il m'a proposé de rester dans ma tente pendant quelques jours pour me calmer, ce que j'ai fait. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé pour savoir ce que je voulais exactement. J'ai répondu que je ne demandais aucun privilège, que je voulais juste être traité équitablement. Il m'a donné un poste permanent dans les magasins du quartier maître. C'est un travail que tout le monde voulait. Je n'ai pas refusé. Après 30 jours, j'ai reçu un galon. Puis, j'ai reçu un 2e galon et j'ai été promu caporal. Je suis revenu au Canada en février 1946. J'ai été libéré du service et j'ai enfin eu la chance de voir ma fille Patricia, la première de nos 6 enfants. Nereen, Pamela, Stanley Edwin et les jumelles Sonia et Latanya. Sans oublier Ricky, venu chez nous en famille d'accueil. Je suis retourné travailler au chemin de fer et j'ai suivi quelques cours à l'Université de Toronto.
Comme bien d'autres, Grizel est revenu bien changé de la guerre. Ses expériences, même s'il en parlait rarement, l'ont grandement influencé. Il en a tiré l'espoir d'un monde nouveau, exempt de discrimination raciale. Il a payé le prix fort pour son dévouement, car les causes qu'il défendait ont fini par faire éclater sa famille.
Well, he was a unique individual.
Mon père était un homme absolument unique. Mais ses relations étaient difficiles avec tous ses enfants. Il était extrêmement déterminé, il visait l'excellence dans tout et il attendait la même chose de ses enfants. Pour ça, je pense qu'il ressemblait à beaucoup d'anciens soldats. À peu près toutes les familles ont été exposées à la structure et à la discipline acquise dans l'armée. Mon père était un excellent soutien de famille. On vivait dans une des plus grandes maisons de la région à East York. On avait un terrain double, ce qui était rare. On avait un garage pour 4 voitures. Ma mère en louait une partie à des habitants du quartier. Mon père travaillait très, très fort pour nourrir ses 7 enfants. On n'a jamais manqué de rien. On a connu quelques problèmes quand mes parents se sont séparés en 1963, ou plutôt février 1964. C'était la fin de l'unité familiale. Il y avait la mère et il y avait le père. Mon père est un peu disparu dans la brume. Il s'impliquait toujours dans le syndicat. En tant que membre du syndicat, il recevait toujours quelqu'un chez nous. Il y avait constamment de grosses réunions de porteurs de voitures-lits. Il s'impliquait beaucoup là-dedans. Il y avait toujours du monde qui venait demander à mon père ce qu'il pensait de telle ou telle chose. Ce n'étaient pas tous des Noirs. Il y avait aussi des personnes d'origine indienne ou chinoise et des personnes des Premières Nations. Mon père a étudié la révolution sans violence. Il était le président du Fonds Martin Luther King du Canada. Il a travaillé étroitement avec Coretta King après le décès de Martin Luther. La maison était toujours, quand mon père était à la maison, c'était toujours « Chut, ton père est occupé » ou « Ne les dérange pas, ils sont occupés ». J'ai quand même eu l'occasion d'aller les saluer. J'étais impressionné parce qu'ils étaient bien habillés et parlaient vraiment bien. Des gens très impressionnants.
Stanley Grizel a transformé sa résidence en quartier général. Comme son fils l'a mentionné, sa porte était toujours ouverte. Très souvent, diverses personnalités de la communauté noire de Toronto ou d'ailleurs prenaient place autour de la table de cuisine jusqu'au petit matin. C'est devenu encore plus fréquent quand Grizel s'est impliqué dans le mouvement syndical dont la fraternité des porteurs de wagons dortoirs.
Moins de 10 jours après avoir repris la route, j'ai été élu secrétaire du comité d'organisation du syndicat. Plus tard, on m'a élu président de la section locale. Pour nous, la leçon était claire. Si tu présides un syndicat, tu dois être intègre et donner l'exemple. On était surtout des pères de famille investis dans le syndicat. On se tenait ensemble en voyage. On ne buvait pas et on ne pariait pas. En général, on sortait aux quilles ou au cinéma et d'autres jouaient aux cartes. C'était ça mon groupe. Une partie s'habillait chic pour aller draguer.
La collection d'entrevues nous fait connaître des personnalités assez excentriques. Les porteurs Willis Richardson, George Foray, Odell Holmes et Clarence Nathaniel Est nous parlent de certains hommes mémorables qu'ils côtoyaient.
Dès que j'ai commencé à voyager, j'ai rencontré un porteur de Moose Jaw qui se faisait appeler le comte D'Berry. C'était un personnage assez pittoresque, le porteur le plus pittoresque que j'ai jamais vu. Il était très apprécié. Pendant des années, il a fait le trajet de Moose Jaw à Saskatoon, dans ce coin-là. C'est un homme exceptionnel qui a beaucoup voyagé. Il est passé partout aux États-Unis, il a été chef cuisinier et bien d'autres choses. Il te faisait rire pendant des heures en parlant de lui. C'était un homme à femme, il aimait s'habiller. Quand son train du Canadien Pacifique allait à Chicago, il mettait ses plus beaux habits et ses petites amies l'attendaient à la gare. Et il était tout à fait prêt.
Oh, well, we had one fella, D'Berry, from out west, that we used to call him the Count.
Il y avait un gars de l'ouest, D'Berry. On l'appelait le Comte. Il était toujours élégant et marchait avec une canne. Il s'habillait chic et paraissait bien. Il portait souvent des diamants et il se pavanait chaque fois qu'il les portait. Il avait une canne et se faisait appeler le Comte. C'était le Comte occidental de Winnipeg. Il y avait des personnalités assez excentriques. Dans le coin de Winnipeg, je pense qu'il y avait plus de surnoms que partout ailleurs. Un gars s'appelait D'Berry, Comte D'Berry. Je ne sais pas au juste. Il s'habillait vraiment bien. Il portait presque toujours une sorte de tuxedo, un costume foncé. Il était toujours habillé chic. Il avait une moustache bien cirée en forme de guidon de 4 ou 5 pouces. Des choses comme ça. Il allait travailler comme s'il assistait à un dîner protocolaire et il l'appelait le comte. Je me souviens très bien de lui parce que je l'ai rencontré pendant mon premier ou mon deuxième voyage en 1940. Je m'en souviens encore très bien. Par exemple, on avait un porteur qui était vraiment très apprécié et il voulait avoir un titre en conséquence. Il se faisait donc appeler Comte D'Berry. Il voulait que tout le monde l'appelle le Comte. Il a donc accepté le titre de Comte D'Berry, la haute noblesse. On avait aussi un porteur très discret, vraiment réservé, mais qui avait une haute opinion de lui-même. Il s'appelait lui-même le beau Morrison. Il disait « Tu dis que je suis laid, mais ma mère dit que je suis beau. Alors je m'appelle le beau Morrison. »
Les enfants de Grizel comprenaient mal les choix de leur père et supportaient difficilement ses absences. Par contre, les discussions qui bouleversaient leur vie quotidienne ont laissé des souvenirs impérissables. Avec le recul, c'est devenu un outil supplémentaire pour comprendre la personnalité complexe de leur père. Mais à l'époque, vivre l'histoire était épuisant. Les enfants ne pouvaient pas se douter que le militantisme presque obsessif et le travail de porteur de Stanley Grizel qui les privait d'une présence paternelle pendant de longues périodes, allait bouleverser le cours de l'histoire au Canada.
It took him away from the family.
Tout ça l'éloignait de sa famille, ce qui arrive probablement souvent avec les personnes qui se dévouent à une cause. Il y avait beaucoup de tensions avec la plupart des enfants. Je pense que je suis celui qui est resté le plus proche de mon père. Après la séparation en 1964, la famille a été pas mal détruite. Mes plus vieilles sœurs ne voulaient plus vraiment fréquenter mon père. Mais c'était un homme très créatif. Il aimait la musique, j'en entendais toujours dans la maison. C'est en écoutant la musique de mon père que j'ai connu Stan Kenton ou Duke Ellington. C'était un vrai mélomane. Et il était agréable à côtoyer. Il travaillait très bien le bois. Il aimait travailler le bois et je pense qu'il m'a transmis sa passion car moi aussi j'aime ça. J'aime sentir et travailler le bois. Ce sont mes souvenirs de jeunesse avec mon père.
Grizel a transmis l'amour de la musique et de la menuiserie à son fils Stanley. Mais il était peu présent dans la vie de son épouse et de leurs autres enfants. Son épouse, laissée à elle-même pour élever 7 enfants, a vite trouvé la situation intolérable.
Il y avait 7 enfants, quoique les jumelles ne sont nées qu'en 1962. Alors, on était 5 enfants pas mal turbulents à la maison. Noreen et Tish jouaient à l'école. Garçons et filles, je m'en souviens. Noreen était aussi une meneuse de claque. Elle était meneuse de claque et faisait de l'athlétisme. Elle était très active. Moi, je jouais au hockey. J'ai commencé à jouer à 6 ans. Du hockey de compétition. J'étais un bon petit joueur. On était tous occupés tout le temps et mon père était rarement à la maison. Il était dans les trains, alors ma mère devait tout organiser. Elle me donnait des billets étudiants de ma sœur, des billets de la commission de transport de Toronto pour que je puisse aller au hockey. Je pense que mon père ne venait jamais au hockey. J'ai joué pendant 8 ou 9 ans et je me souviens d'une seule partie où il est venu. À l'époque, je n'étais pas content parce que tous les autres étaient accompagnés de leur père pour attacher les patins et tout. Avec le recul, je comprends ce qu'il voulait faire. Il était trop occupé à changer le monde, n'est-ce pas? Le mariage a fini par éclater. Je suppose que c'est pour ça qu'il y a des ruptures. Les gens vont dans des directions opposées.
Les mémoires de Grizel n'abordent pas la question de la rupture de son mariage et des liens avec la plupart de ses enfants. Il est difficile de savoir si Grizel a déjà essayé de comprendre leur point de vue. Des histoires familiales laissent croire que la réalité était très complexe.
En 1962, j'ai quitté le syndicat. Près d'un an plus tard, j'ai quitté le chemin de fer et je suis devenu le premier Canadien noir employé au ministère du Travail de l'Ontario. J'étais commis à la Commission des relations de travail de l'Ontario. Je gagnais environ 1 000 par année de moins que quand j'étais porteur. Ce sacrifice a grandement nui à mon mariage et on a fini par divorcer. En janvier 1978, j'ai démissionné de la fonction publique provinciale parce que le premier ministre Trudeau m'a nommé juge à la Cour de la citoyenneté canadienne. Je suis devenu le premier juge canadien noir dans l'histoire du tribunal. Je suis resté à ce poste pendant 5 ans et 10 mois. J'ai bien aimé rencontrer des gens venus de près de 100 pays jusqu'à ma retraite en 1983.
Dorothy Williams est l'auteur de 2 ouvrages fondamentaux, Blacks in Montreal, 1628-1986, et The Road to Now, A History of Blacks in Canada. Elle considère Grizel comme un gardien essentiel du savoir, car il a su préserver des éléments importants de la vie des Noirs au Canada. Il était en effet très conscient de la nature éphémère de l'histoire. Beaucoup d'informations auraient été perdues si Grizel n'avait pas pris le temps de recueillir des articles de journaux, des discours, des textes, des documents syndicaux et des témoignages de son entourage.
C'était un chroniqueur. Il donne son propre point de vue et c'est ce qu'il faut faire. En fait, on aurait besoin de beaucoup plus d'histoire. Parce que l'histoire, ce sont des textes écrits. Quand on les jette à la poubelle, c'est l'histoire qui est perdue. Peu importe ce qu'on peut dire de l'histoire orale, ce n'est pas encore perçu. Une expression dit que la mort d'une personne, c'est comme la mort d'une bibliothèque. Une bibliothèque est fermée quand la personne meurt, parce qu'elle ne raconte plus ses histoires. Alors, si ce n'est pas écrit, c'est perdu, non? On a donc encore besoin de chroniqueurs. Ça nous prend des écrivains, des idéalistes, des visionnaires qui prennent la plume pour étoffer l'histoire des Noirs au Canada. Et il va falloir que d'autres disciplines commencent à combler des parcelles, des lacunes qui existent. On a perdu beaucoup de choses. Ça nous a pris du temps. Je ne sais pas. On n'aura jamais une histoire complète. Pourquoi? Parce que le sujet n'a pas été traité dès le départ. Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui se manifestent. Quand j'ai commencé dans les années 1980 et 1990, j'étais seul. Il n'y avait personne d'autre. Même dans les années 2000, il y avait quelques personnes, mais très peu. Elle trouvait un appui où elle pouvait, parfois aux États-Unis. Mais au Canada, ça ne nous intéresse pas. La question des Noirs, qu'est-ce que ça mange en hiver?
En plus de sa vaste documentation sur les expériences de Grizel, Bibliothèque et Archives Canada a récemment numérisé 43 entrevues d'histoire orale menées en 1986 et 1987 avec des porteurs de chemin de fer canadiens Pacifique et canadiens National et leurs familles. Grâce au généreux appui de la Fondation de Bibliothèque et Archives Canada, ces entrevues et leurs transcriptions sont accessibles gratuitement sur notre site Web. Les prochains épisodes de la mini-série « Confidences de porteurs » donneront la parole aux personnes interviewées par Grizel. Nous prendrons le temps nécessaire pour entendre leurs expériences. Les transcriptions des émissions seront accompagnées de références temporelles détaillées pour que vous puissiez consulter les entrevues à votre aise. Melvin Crump, un porteur de voiture-lit qui a travaillé 18 ans à la section de Calgary du Canadien Pacifique, qualifie ses conversations de « porter talk ». Cette expression, qui témoigne des liens que développaient les porteurs au travail et à l'extérieur, a inspiré le titre « Confidence de porteur » donné à la première saison de Voix dévoilée.
Oh oui, je sais de quoi tu parles. Entre eux, les porteurs se donnaient des noms que je ne voudrais pas répéter sur un enregistrement. Si je le faisais, les lecteurs et les auditeurs seraient probablement choqués. Je peux te dire que les porteurs avaient un langage bien particulier. Et les conversations qu'ils avaient entre eux, je n'oserais jamais raconter ça.
Dans les entrevues d'histoire orale, les bruits de fond sont rarement aussi intéressants que les paroles de l'interviewé. C'est pourtant ce qu'on constate avec la collection d'entrevues de Grizel. L'auditeur est immédiatement transporté dans un monde où on laisse tomber les formalités. On entend des discussions amicales et le bruit des glaçons dans les verres. Les entrevues nous amènent dans l'intimité d'un monde qui n'existe plus, mais dont l'influence se fait encore sentir. Les entrevues de Grizel nous plongent dans les histoires de porteurs. En plus de se demander ce qui a été perdu quand Grizel éteignait son magnétophone, les auditeurs peuvent entendre les sons qui tapissent l'arrière-plan et qui permettent de mieux connaître les interviewés. En écoutant bien, on peut deviner le pays d'origine des personnes interviewées. Les accents, parfois très prononcés, laissent envisager une vie dans les Caraïbes ou dans le sud des États-Unis. Les combats de ces travailleurs migrants pour trouver une vie meilleure au Canada occupe une place centrale, tout comme les sons de la vie quotidienne. Les sons en arrière-plan sont aussi révélateurs. On entend des radios ou des télévisions, le chant des oiseaux ou des enfants qui jouent. Le bruit des chaudrons suggère la présence d'une épouse, probablement en train de préparer un repas pour un invité de renom comme Grizel avant d'être interviewée à son tour. Des pas lourds à l'étage et le bruit des toilettes montrent que certains porteurs n'ont jamais réussi à quitter leur modeste logis, même à la retraite. La beauté de ces vies bien vécues et la complexité de la vie quotidienne sont au cœur de la série Confidences de porteurs. Les conversations qui commençaient à la table de cuisine et qui se poursuivaient dans les trains, les réunions syndicales et les manifestations ont jeté les bases du Canada moderne. Le prix payé par Stanley Grizel et sa famille n'a pas été vain. Lui et des porteurs vivant dans l'ensemble du pays ont provoqué des changements concrets, surtout dans les domaines des lois du travail, des politiques d'immigration et des droits de la personne. Toutefois, comme Grizel le rappelle, on n'a pas fini de lutter contre la discrimination et le racisme systémique, institutionnel et quotidien qui touche les communautés marginalisées depuis trop longtemps. Les histoires de porteurs et les paroles de Grizel nous offrent de puissants outils pour mener ce combat.
Je me souviens ce que m'a dit A. Philip Randolph un jour. Frère Grizel, le bien a la curieuse tendance de remonter à la surface. Pourtant, je crains que l'homme reste longtemps un lot pour l'homme dans notre société, que ce soit à cause de la couleur, de la race, de la religion ou de la culture. On a conquis l'espace, mais pas nous-mêmes. Même si on a fait du chemin, il en reste encore beaucoup à parcourir.
Dans le deuxième épisode de Confidences de porteurs, nous chercherons à savoir qui étaient ces hommes. Vous découvrirez d'où ils venaient, comment ils ont commencé à travailler sur le chemin de fer et quelles sortes de défis insolites ils devaient relever.
I enjoyed the companionship of the porters themselves.
J'aimais la camaraderie avec les porteurs, mais pas le travail lui-même. C'était juste un gagne-pain qui permettait de subvenir aux besoins de ma famille. Les hommes noirs n'avaient pas d'autres options.
Abonnez-vous à Découvrez Bibliothèque et Archives Canada pour être informé de la publication des prochains épisodes. Vous y entendrez James Laverne Robbins et d'autres porteurs qui ont reçu Stanley Grizel chez eux à la fin des années 80, ainsi que leurs épouses et leurs enfants. Toutes ces familles ont donné une voix à la communauté noire du début du 20e siècle, que ce soit sur les chemins de fer ou ailleurs. Des chercheurs et des historiens noirs de renom placeront les expériences des porteurs dans leur contexte pour nous aider à comprendre les innombrables obstacles que ces citoyens ont réussi à surmonter à force de persévérance. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Richard Provencher, votre animateur. Vous écoutiez Confidences de porteurs, la première saison de la série Voix dévoilée. Nous remercions tout particulièrement nos invités. Stanley Grizel fils, Cecil Foster, Sage Mathieu, Melinda Châteauvert, Stephen High et Dorothy Williams. Consultez les notes du présent épisode pour consulter leurs notices biographiques. Les notes comprennent également une transcription de l'épisode avec des références temporelles menant au contenu de l'entrevue originale dans la collection Grizel. N'hésitez pas à diffuser ces histoires dans votre entourage. Nous remercions également Scott Myers d'avoir lu les extraits des mémoires de Stanley Grizel dans la version anglaise. Le doublage en français a été effectué par Euphrasie Mujawamungu, Rolson Dieudonné et Lernce Joseph. Vous trouverez la version anglaise de tous nos épisodes sur notre site web ainsi que sur votre lecteur de balado favori. Il suffit de chercher Discover Library and Archives Canada. Le réputé musicien et producteur Paul Novotny a composé Jazz Dance, la chanson thème de Confidences de porteurs. La musique de Joe Seeley, célèbre pianiste de jazz et fils d'un porteur, est elle aussi entendue dans cet épisode. Le reste de la musique provient de la banque BlueDotSessions.com. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit, conçu, réalisé et monté par Tom Thompson, Jennifer Woodley et Stacey Zambricki. Pour plus d'informations sur nos balados, rendez-vous sur la page d'accueil de Bibliothèque et Archives Canada et tapez « Balado » dans la barre de recherche située au haut de l'écran, puis cliquez sur le premier lien. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, vous trouverez l'adresse courriel de l'équipe de Balado au bas de la page de cet épisode.